Bonjour à tous les auditeurs de 20 minutes d'histoire.
Chers auditeurs de 20 minutes d'histoire, bonjour. Exilé à Paris, loin de mes complices lyonnais, j'animerai cette émission en compagnie d'Angela Crash, rédactrice en chef du journal lillois Le Scandale. Nous sommes donc aujourd'hui en duplex de la capitale avec le fondateur et animateur de l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, Emmanuel Laurentin. Arrivé en 1986 à Radio France, vous animez depuis bientôt 12 ans votre propre émission, après avoir travaillé avec Patrice Vélinet. Vous faites également partie du comité de rédaction du magazine L'Histoire. Nous aimerions aborder avec vous les thèmes de la diffusion de l'histoire dans l'espace public, des rapports entre le journalisme et certaines formes d'histoire plus institutionnelles, plus universitaires. Mais avant tout, nous souhaiterions revenir sur votre émission La Fabrique de l'Histoire.
Nous avons pu constater, au moment de la révolution tunisienne, que vous avez changé votre programme hebdomadaire pour le consacrer à la chute des tyrans. L'actualité prend-elle une si grande place habituellement dans votre émission ?
Alors, il se trouve que j'ai une double formation d'historien et de journaliste, puisque j'ai fait une formation à l'école de journaliste de Lille, donc à l'ESJ. J'en suis sorti en 1986 et j'avais fait auparavant une formation d'histoire, j'avais raté l'agrégation, donc j'ai toujours été intéressé par les deux bouts de la chaîne, pourrait-on dire, le chaud, le froid, une réflexion plus lente sur le passé et une réflexion plus chaude sur le passé. Donc dès que j'ai eu la possibilité, je suis entré dans une émission d'actualité sur France Culture et très rapidement je suis allé travailler dans une émission de Patrice Gélinet à l'époque, donc qui faisait une émission d'histoire. Mais dans cette émission d'histoire, je faisais un exercice de revue de presse donc historique, mais néanmoins un exercice de revue de presse qui ressemblait à une revue de presse contemporaine, si vous voulez. C'est-à-dire, j'essayais toujours de mêler l'actualité et l'histoire. Et dans la formule de La Fabrique de l'Histoire, il y a donc une émission, celle du vendredi, qui est toujours consacrée à la question du rapport des historiens à l'actualité, et donc tous les vendredis, au moins une fois par semaine, on parle de l'actualité. Mais néanmoins, là c'est vrai que j'ai changé ma programmation, on a changé notre programmation parce qu'on a considéré que les événements étaient si importants qu'il était important de donner à nos auditeurs une sorte de regard sur ce qui se passait, mais un regard sur le passé, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer par exemple ce qu'était la question de la modernité, de la démocratie, de la liberté dans le monde arabo-musulman, et puis également de se poser la question de la façon dont on s'est débarrassé dans l'histoire de ces souverains quand ils étaient illégitimes, que ce soit du temps des Grecs à Athènes, ou encore au Moyen-Âge, ou encore dans l'Italie de la Renaissance, ou encore dans les périodes plus contemporaines. Donc toujours donner la possibilité aux auditeurs de La Fabrique de l'Histoire de réfléchir sur l'actualité à partir d'outils qui sont les outils de l'historien et de regards sur le passé.
Notre émission est l'une des plus podcastées de France Culture. On connaît également l'engouement des auditeurs pour 2000 ans d'histoire. Comment qualifieriez-vous votre public ?
Alors, c'est un public, on a beaucoup de difficultés à connaître notre public. Il nous écrit beaucoup, en particulier par l'intermédiaire des mails et par l'intermédiaire des forums de discussion qu'on peut avoir avec lui, de la façon dont il nous écrit sur chacune des émissions que l'on fait. On a donc un peu de mal à le déterminer parce que c'est un public très varié. Il y a à la fois un public qui est un public d'amateurs d'histoire en général, mais il y a des gens qui ont découvert l'histoire ou redécouvert l'histoire par l'intermédiaire de cette émission. C'est-à-dire que la façon un peu différente peut-être de traiter la question de l'histoire, c'est-à-dire moins universitaire, tout en étant extrêmement sérieuse, mais avec des thématiques et des angles d'attaque des sujets historiques un peu particuliers, cette façon qu'on a de traiter l'histoire par ce biais-là, intéresse des gens qui nous disent souvent je m'intéressais pas à l'histoire, j'ai de mauvais souvenirs de mes cours d'histoire, ou l'histoire s'était passée à côté de moi. D'une certaine façon, vous m'avez fait redécouvrir, l'émission m'a fait redécouvrir les problématiques historiques, parce que peut-être on les pose à partir de questions qui sont posées au présent, à la façon dont on construit l'histoire. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui intéresse le public, c'est cette idée de fabrication de l'histoire. C'est-à-dire que on est dans une époque où une partie du public a bien conscience que les faits ne sont pas des faits établis de toute éternité, mais que ces faits-là ont été construits par un contexte culturel, par un moment d'histoire, et que ces faits que nous revendiquons comme étant des faits du passé aujourd'hui, eh bien peut-être nos parents, nos grands-parents, ou trois ou quatre générations auparavant, on ne les revendiquait pas comme tels. Souvent, c'est une remarque qui nous est faite, c'est que tout compte fait, on découvre par l'intermédiaire de ce titre même de la Fabrique de l'Histoire que, eh bien, on peut réfléchir au passé de façon différente. Et ça, on s'aperçoit que les auditeurs, ils sont assez sensibles dans la période contemporaine. Peut-être aussi parce qu'il y a le goût de la coulisse, l'idée que l'histoire, ça n'est pas un fait, mais un processus, et que il est intéressant de s'intéresser à la façon dont ce processus a été mis en œuvre au fur et à mesure du temps.
Vous avez initié l'année dernière une rubrique « Qu'est-ce que l'histoire ?». Cette année, il s'agit de faire parler des historiens professionnels et amateurs autour de l'inconnu des archives, rencontrés au hasard des dossiers. L'émission est-elle, constitue-t-elle également une tribune pour historiens ?
Je crois qu'on peut dire en tous les cas que c'est une émission qui se place depuis sa création, qui se place du côté des historiens en tous les cas. C'est-à-dire du côté ou à côté des historiens. C'est-à-dire que on considère que l'histoire en tant que telle a quelque chose à nous dire, que les historiens professionnels ont quelque chose à nous dire, que l'histoire est une discipline sérieuse et qu'elle a donc, à partir de ce sérieux, elle a quelque chose à dire sur le présent. Donc on peut dire que ça n'est peut-être pas une tribune pour les historiens, mais c'est un lieu où en tout cas ils savent qu'ils peuvent porter la voix un peu plus loin que dans un amphithéâtre ou un séminaire, que leurs recherches peuvent être touchées peut-être 10 000, 50 000, 100 000 personnes, et qu'à partir de là, c'est un endroit où ils savent qu'ils peuvent être accueillis, entendus, que leurs polémiques aussi peuvent être relayées. Et je pense que oui, une partie de la profession, des historiens, considère que c'est un endroit, en tout cas, qui les accueille favorablement et qui n'est pas hostile à leurs problématiques, en tous les cas. On est du côté des historiens, je pense.
Vous sentez-vous investi d'une mission d'information en tant que journaliste et historien ?
Mission d'information, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, je pense que une des questions sur laquelle, un des points sur lesquels on a beaucoup insisté quand on s'est créé, c'était d'être un lieu de transmission plus rapide que beaucoup d'autres lieux de transmission des savoirs savants vers un public plus large. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que l'idée de la Fabrique de l'Histoire, c'est d'être le lieu où, quand il faut 20 ans généralement pour qu'une notion naît dans un laboratoire, c'est généralement ce que disent les scientifiques de sciences dures, mais on pourrait l'appliquer pour certaines théories de sciences humaines, naît dans un laboratoire, parvienne au grand public. Eh bien, je me dis qu'en étant à France Culture, on s'est toujours dit que c'était l'endroit, le moment où on pouvait servir de lien pour qu'au moins le cycle soit raccourci. C'est-à-dire que ça aille un tout petit peu plus vite. C'est-à-dire que quand on est au courant d'un colloque qui se tient, d'un livre extrêmement novateur, d'une approche qui d'un seul coup bouleverse les approches précédentes, on va faire en sorte que très rapidement, on transmette à nos auditeurs l'existence soit de ce colloque, soit de ce livre, soit d'autres productions autour de l'histoire, pour que ça n'aille pas plus vite, parce qu'on n'est pas la société ne tourne pas autour de France Culture, de la Fabrique de l'Histoire, mais disons que des gens qui peuvent être intéressés entendent parler plus tôt qu'ils ne l'auraient fait en attendant la publication savante un an ou deux ans plus tard, la sortie du numéro de revue qui prendra forcément un petit peu de temps. Donc, pour aller plus vite à l'information en question, et dans ce sens-là, oui, je pense qu'on a un travail d'information à donner, de raccourcissement du cycle, de faire en sorte que ces découvertes aillent plus vite auprès du grand public.
Alors, vous parlez de raccourci, vous dites l'intermédiaire entre un savoir un peu peut-être livresque et un grand public. Ma question, c'est incontestablement, les documentaires et les romans historiques rencontrent un grand succès. Dans quelle mesure l'histoire est-elle vulgarisée, justement, pour le grand public ?
On peut tout de même dire qu'on est dans un pays où les questions historiques font débat, ce qui n'est pas vrai dans tous les autres pays, où à chaque fois qu'on parle de patrimoine, à chaque fois qu'on parle de faits historiques et de débats, par exemple, en politique sur l'histoire, il y a un écho, il y a une discussion, il y a quelque chose qui se crée, qui se cristallise, si vous voulez. Donc, on a quand même la particularité d'être dans un pays un peu particulier, un peu riche de ce côté-là. Et donc, à partir de là, effectivement, on a la possibilité de développer plus de sujets, plus de thèmes. Alors, le thème de la fiction historique est un thème particulièrement intéressant, parce que est-ce que c'est de l'histoire que Marie-Antoinette, vue par Sofia Coppola, Si on imagine que c'est de l'histoire des représentations, oui, parce que d'un seul coup, on impose au public, par la vision d'un metteur en scène américain, on impose une certaine vision de l'histoire de la Révolution française, une certaine vision de ce qu'était Marie-Antoinette. Et souvent, on peut dire que les historiens auront bien du mal à concurrencer cette vision-là, parce que c'est un film qui aura été vu par 100 000, 500 000, 1 million de personnes, et que ce million de personnes-là, d'une certaine façon, ne reviendra pas par ailleurs sur la vision de ce cinéma ou de cette cinéaste de Marie-Antoinette et partira avec cette idée que Marie-Antoinette c'était une pauvre petite fille un peu triste, une jeune fille un peu ballottée entre ses parents et son mari qui ne la satisfaisait pas véritablement et qui aimait se faire plaisir et avoir un peu de plaisir autour d'elle et en donner aussi un peu égoïste peut-être, mais surtout avec une envie de faire la fête. Bah, d'une certaine façon, on peut dire que beaucoup de gens vont avoir ça en tête. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à cette vision-là. C'est-à-dire, il n'y a pas que la vision des historiens, il n'y a pas que l'histoire racontée par les familles, par les parents, qui compte aussi beaucoup dans la façon dont on se fabrique par rapport au passé. Mais il y a aussi toutes ces fictions d'histoire, ces romans historiques, ces documentaires historiques, comme Apocalypse. On sait que des historiens n'étaient pas d'accord avec la façon dont Apocalypse avait été présenté la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, d'une certaine façon, on peut dire que 8 millions de personnes ayant vu Apocalypse, eh bien, avant longtemps, il y a peu d'historiens qui pourront avoir autant d'écoute, autant d'audience et nuancer peut-être cette question d'Apocalypse parce que ben voilà, ça sera un peu le film pendant un certain temps, le film documentaire un peu définitif, même si ça n'en est pas, ça n'est jamais définitif sur ce sujet. Donc on ne peut pas faire attention, on ne peut pas faire l'impasse sur à la fois les documentaires d'histoire, à la fois les fictions d'histoire, les romans d'histoire, les films d'histoire. C'est pour ça qu'on a tous les mois dans la Fabrique de l'Histoire, le premier vendredi de chaque mois, trois historiens de l'université, Fabrice d'Almeida, Pascal Horry et puis Arlette Farge, qui viennent juger, regarder, jauger les fictions d'histoire, un film, une bande dessinée, une pièce de théâtre, un roman, pour essayer de se demander ce que ça apporte aussi au travail de l'historien, parce que ces fictions-là apportent quelque chose au travail de l'historien.
Toujours au sujet de l'histoire et sa vulgarisation, au niveau du grand public, la pandémie des blogs et des tweets implique-t-elle une accélération de l'histoire ? Quel statut pour ces millions de mini-textes qui prendront bientôt le statut d'archive ? L'histoire s'écrit-elle en direct désormais ?
Alors oui, c'est une bonne question. Je crois d'ailleurs que la Bibliothèque nationale de France s'était posé cette question au moment de la présidence qui était celle de Jean-Noël Jeannet, qui était un historien qui présidait la Bibliothèque nationale de France, de savoir comment on allait pouvoir conserver ces témoignages de la vie que sont les mails déjà. C'était les mails à l'époque, mais alors évidemment on n'était pas encore passé ni au tweet ni à Facebook. Mais effectivement, comment conserver ces discussions, ces débats ? Est-ce qu'il faut les conserver ? Comment faire en sorte de capter tout cela qui est de l'ordre à la fois de la vie privée et donc qui a priori n'a pas pour vocation à être mis sur la place publique, y compris par les historiens avant un certain temps ? C'est une vraie question. Est-ce que c'est une accélération ? C'est forcément une accélération. Et qu'est-ce qu'on va faire de toute cette masse documentaire ? Comment les historiens vont-ils s'y retrouver ? Comment faire le départ entre parole publique, parole privée ? Comment utiliser ces outils qui sont à disposition, mais qui sont éphémères quelquefois, qui sont stockés sur des ordinateurs qui sont eux-mêmes très lointains ? Comment être sûr que ces données-là ne disparaîtront pas ? C'est une vraie question, mais là, je n'ai pas la réponse.
Justement, dans cette question du stockage des archives, etc. Vous avez forcément suivi le débat autour de l'hôtel de la Marine. Il y a aussi un débat autour de la Maison de l'Histoire de France. Beaucoup de débats qui impliquent l'histoire en ce moment. Et quelle est la place des historiens ? Quelle place prennent-ils dans ces débats ?
Alors, c'est une place éminente parce qu'aussi bien pour la Maison de l'Histoire de France, ils ont été disons requis, on leur a demandé s'ils voulaient participer à ce projet, en faire partie du comité d'orientation scientifique. Donc déjà c'est un débat entre historiens. Pour ce qui est de la question de l'hôtel de la Marine, ce sont des historiens qui ont lancé la polémique, pourrait-on dire, en particulier Pierre Nora, mais pas seulement, Jean-Noël Jeannet et bien d'autres aussi. Donc on peut dire que oui, ils ont un rôle social, ils ont un rôle médiatique, ils ont un rôle de médiatisation de ces problèmes et de ces questions d'histoire qui n'est pas négligeable. Et alors évidemment, est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils sont historiens ? Est-ce que ceux qui ont raison sont les hommes politiques ou les femmes politiques qui leur demandent de faire certaines choses ? Quel est le risque d'instrumentalisation de l'historien par la politique ? Ce sont des questions qu'il faut se poser et qu'il se pose aussi parce que évidemment il y a certaines personnes qui refusent d'entrer dans ce schéma-là, qui ne veulent pas entrer dans cette question de se retrouver dans un pouvoir, face à un pouvoir ou avec un pouvoir avec lequel peut-être de façon citoyenne ils ne sont pas d'accord. Le risque d'utilisation d'un travail scientifique par la politique, c'est toujours une possibilité. On voit bien que ces débats sont très très importants ces temps-ci chez les historiens et qu'ils sont de plus en plus obligés de se poser la question. Il faut dire que depuis 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy, la question de l'histoire est revenue au milieu de la table pour les historiens. L'usage de l'histoire par les hommes politiques, et en particulier par le président de la République, ça a été très important. C'est ce qui s'est passé au moment de la campagne, quand en janvier 2007, Nicolas Sarkozy, candidat, a revendiqué à la fois Jean Moulin, De Gaulle, Guy Môquet. C'est ce qui s'est passé après la campagne, une fois qu'il était élu, quand il a donc demandé un hommage à Guy Môquet, quand il a demandé le parrainage d'un petit enfant juif par les élèves des écoles, toutes questions qui ont fait que d'un seul coup, les historiens ont dû se positionner par rapport aussi à ces demandes politiques, dire oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, faut-il utiliser tel terme ou tel terme quand on parle du passé, et que je pense. Ces questions-là ne seront pas non plus absentes du débat politique qui va s'ouvrir avec la question présidentielle, et que là aussi, ils devront prendre des décisions, savoir s'il faut aller de tel ou tel côté. Et donc, ça leur pose quelques problèmes ces temps-ci aux historiens de savoir si ils doivent rester dans leur tour d'ivoire, entre guillemets, ils ne sont jamais dans leur tour d'ivoire universitaire, de recherche, ou si à un moment ou à un autre, ils doivent répondre à ces demandes-là qui viennent du politique ou de l'autre côté, qui viennent de la société, ces demandes, parce qu'il y a les demandes aussi de groupes mémoriels, de groupes qui veulent voir reconnaître certains types de droits et qui demandent aux historiens de participer à des commissions avec eux, etc. Et là, les historiens aussi sont divisés sur la réponse à donner. Doit-on aller auprès de groupes mémoriels pour appuyer leurs revendications mémorielles, ou est-ce que ça n'est pas notre rôle quand on est historien ? Toutes questions qui sont extrêmement intéressantes. Donc il y a à la fois une pression par le bas, par la société, une pression par le haut, par une élite politique qui peut leur demander de se positionner, et entre les deux, les historiens qui doivent de temps en temps faire des choix.
Mais juste sur ce débat, si on vous demandait justement vous de vous positionner un peu par rapport notamment à la question des lois mémorielles, de toutes ces lois qui sont passées autour de la reconnaissance du génocide arménien ou autour de la reconnaissance de l'esclavage comme crime de l'humanité, est-ce que vous pensez que le politique est dans sa place et comment vous positionnez-vous, vous, dans ce débat ?
Moi, personnellement, je ne vais pas dire que je n'ai pas d'avis, j'ai un avis de citoyen, mais je pense qu'en tant que médiateur, je ne dois pas prendre parti dans cette question-là. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a deux groupes à l'intérieur des historiens. Il y a ceux qui disent aucune loi mémorielle, on supprime toutes les lois mémorielles, et qui se posent tout de même la question, est-ce qu'il faut garder, par exemple, la loi Guesso sur le négationnisme. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, il faut rester ouvert à ces lois mémorielles parce qu'elles disent quelque chose de la pulsation de l'histoire et du passé à l'intérieur de nos sociétés. Et donc, au bout du compte, ces revendications-là, il faut les prendre en compte, etc. Bon, je peux dire que c'est une réponse de Normand que je vais vous faire, mais certains matins, je me lève d'un côté et d'autres matins, je me lève de l'autre côté. Je n'ai pas de position très, très ferme. Je ne sais pas s'il faut la suppression de toutes les lois et pourquoi, dans ces cas-là, on ne supprimerait pas la loi Guesso. Donc certains disent non, toutes les lois sauf la loi Guesso, donc ça veut dire la loi Taubira, oui, on pourrait la supprimer, mais pas les autres lois. Je ne sais pas. J'ai pas d'opinion. Je pense en tous les cas que si les lois ont été faites aujourd'hui, elles existent. On peut peut-être s'arrêter là. Et ça n'est peut-être pas la peine de les multiplier et de continuer à en ajouter les unes après les autres. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être un temps qui est passé, ça. C'est-à-dire que c'était un moment où la question du frottement entre histoire et mémoire était très fort. Et on est peut-être arrivé un peu au terme de cela, on est passé au-delà, à autre chose, et je pense que ça n'est peut-être plus tellement à l'ordre du jour. D'ailleurs, on ne voit plus tellement ce type de revendications mémorielles se mettre en place actuellement. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles revendications qui viennent sur le devant de la scène.
Alors, je vais aborder maintenant un autre thème, donc les rapports entre l'histoire, la vulgarisation et les jeunes. Pensez-vous qu'il y a un désintérêt des jeunes pour l'histoire ? Parce que on sait que l'ignorance des jeunes et leur désintérêt de l'histoire, c'est un thème qui est récurrent dans les médias et qui est exploité dans les journaux, dans les documentaires, un peu partout. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, moi, je ne sais pas très bien ce que sont les jeunes. Je pense pas. Oui, mais je pense pas qu'on puisse dire ni les jeunes ni les étudiants. Je pense que c'est trop généralisant, quoi. C'est-à-dire que des jeunes, oui, peut-être un certain type de jeunes, un certain type d'approche. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un tel désintérêt. Je pense simplement que peut-être les moyens pour parler d'histoire sont plus les mêmes aujourd'hui. Il faudrait peut-être imaginer d'autres façons d'approcher ces questions-là. Mais moi, je ne vois pas dans le public que j'ai de désintérêt particulier de ces classes, disons, plus jeunes que les autres. On a peut-être moins d'auditeurs plus jeunes, mais néanmoins ceux qui sont avec nous et qui nous écoutent sont extrêmement motivés, sont très présents, réagissent tout autant que les autres. Donc je ne crois pas qu'il y ait de véritable différence de nature entre justement une classe plus jeune et puis les autres classes de la société. Simplement, c'est peut-être les moyens de leur parler, la façon dont on peut leur parler qui est peut-être un peu différente. Mais à partir du moment où on commence à parler des différentes façons de parler de l'histoire. C'est-à-dire, je pense surtout qu'il faut toujours bien multiplier les différentes façons de parler de l'histoire. Il faut multiplier à partir de la fiction, comme on l'a dit, à partir des récits familiaux. On peut s'intéresser de temps en temps pour certaines classes d'âge, à certains moments, on peut partir du fait familial, si vous voulez, et à partir de là, remonter avec le travail des historiens. On peut partir d'une fiction qu'ils ont vue et on peut, là aussi, remonter au travail des historiens. On peut partir d'un livre savant et travailler sur ce livre savant. La question, c'est de multiplier les approches. Et à mon avis, dès qu'on multiplie les approches, on a plus de chances de toucher plus de monde. La question, c'est souvent le seul vecteur que l'on utilise pour pouvoir en parler. C'est un vecteur unique. Et je sais bien que les professeurs, en particulier dans les classes et dans les lycées, essayent d'utiliser tous les moyens possibles. Et ceux qui le font parviennent, à mon avis, d'après ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'ils m'en ont dit, ceux qui le font utiliser à la fois le net, à la fois les nouveaux moyens de communication, Facebook, le cours magistral et classique, la vidéo, la radio, pourquoi pas, etc. Tout un tas de supports. À partir de ce moment-là, le commentaire de documents, eh bien, il n'y a pas de raison que un ou l'autre de ces supports n'intéresse pas la jeunesse. Je pense que c'est pas une question véritablement cruciale.
Pour conclure, une dernière question, justement. En ce qui vous concerne, l'histoire est-elle quelque chose plutôt de vécu ou plutôt quelque chose d'enseigné?
Alors, c'est un peu banal que de dire ça, mais ça, c'est vrai que je vis avec le passé en permanence. Certains autour de moi me le reprochent amèrement parce qu'effectivement, c'est chaque occasion de choses qu'on voit dans la rue, chaque chose qu'on entend me fait penser à quelque chose que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir sur des périodes passées. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu obsessionnel pour moi. Mais je pense que la question de l'histoire vécue est une question essentielle. C'est-à-dire que c'est une bonne façon de prendre l'histoire que de s'intéresser à la façon dont elle nous tisse, c'est-à-dire dont elle nous fabrique, sans jeu de mots. C'est-à-dire que tous les êtres que nous sommes sont des êtres historiques qui sont à la fois marqués par des récits d'enfance familiaux, par légendes qu'on a colportées à l'intérieur des familles, par des lectures d'enfance, de livres héroïques, par des films, des romans, des choses qu'on a pu lire ou entendre ici ou là, par des cours de professeurs qui vous ont plus marqué quand vous étiez en quatrième ou en première, etc. Et que tout cela, c'est du vécu, c'est-à-dire c'est de l'histoire vécue. Et qu'il faut s'arranger avec ça. C'est-à-dire que je pense que la grande question de l'histoire, chez chacun d'entre nous, c'est la question de la délibération. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans un fait historique, à propos d'un fait historique ou d'une période historique, on va délibérer, on va choisir plutôt le témoignage du grand-père qui nous a été raconté quand on était sur ses genoux, quand on avait 6 ans, que le témoignage de l'historien qu'on a lu après, dont on sait qu'il est plus sérieux, qu'il est plus véridique, qu'il est plus proche, mais que néanmoins, on préférera ce qui nous a été raconté par le biais de l'histoire familiale. Et donc, la question de la délibération, à mon avis, c'est extrêmement important pour pouvoir comprendre comment on peut être, chacun d'entre nous, peut-être totalement contradictoire. C'est-à-dire, on peut être pro-révolutionnaire, mais à un moment ou à un autre, parce qu'on vous a raconté quelque chose dans votre famille, considérer que tel ou tel acte des révolutionnaires était insupportable parce que ça remonte par un autre biais, par une autre histoire, ou parce qu'on a vu un film qui nous disait cela d'une certaine façon. Et la question, c'est comment on délibère à l'intérieur de l'histoire, comment on choisit tel ou tel de ces registres d'explication. Est-ce que c'est le registre émotif? Est-ce que c'est le registre émotif par l'intermédiaire de la fiction? Est-ce que c'est le registre émotif par l'intermédiaire du récit familial? Est-ce que c'est le registre raisonnable, pourrait-on dire, par l'intermédiaire de la lecture de livres savants? Et tout ça, ça n'est pas toujours très clair à l'intérieur d'entre nous. Si on a été à un moment dans sa vie passée maoïste, est-ce qu'on s'en souvient encore, ou est-ce qu'on a mis ça sous le boisseau, on a fait semblant de ne pas l'avoir été parce qu'au bout du compte, on sait que tout cela, c'est une explication du monde qui ne correspond plus à l'explication du monde que l'on veut aujourd'hui. Tout ça, ce sont des choses très intéressantes à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, la question de l'histoire vécue, ça me paraît une question essentielle pour ça, c'est-à-dire parce que au bout du compte, ça nous explique comment notre rapport au passé est un rapport complexe, chatoyant, étrange, étonnant et pas toujours très clair au bout du compte, et pour nous-mêmes et pour les autres non plus, parce que quand dans une discussion au bout du compte avec quelques amis à la fin d'un repas, alors qu'on a beaucoup bagarré sur une question politique, on se dit et où on dit oui mais si t'avais été Lénine t'aurais fait quoi, et à partir de ce moment-là on commence à partir sur des considérations sur la révolution russe alors qu'on n'y connaît peut-être pas toujours grand chose, ou si tu avais été Robespierre mais alors toi t'es vraiment un robespierriste, ou alors toi t'aurais été un traître à la révolution, etc. On voit bien comment chacun d'entre nous à un moment ou à un autre, parce qu'on est à court d'arguments, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire, hop, on va chercher un peu de morceau du passé, on le ramène au milieu de la table et on se dit, allez, ça va partir avec ça, on va avoir raison sur l'autre, même si on sait que l'argument qu'on avance n'est pas toujours le bon. Toujours est-il que ce présent, ce passé est toujours présent par cet intermédiaire-là, et que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ce passé, d'un seul coup, on le fait revivre au milieu d'un cercle familial, au milieu d'un cercle d'amis, et qu'il est à nouveau là. Donc cette histoire vécue, ça veut dire que c'est une histoire qui peut être très ancienne, tout à fait passée. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la question de l'esclavage. Voilà quelque chose dont tout le monde pensait que c'était réglé, c'est-à-dire que depuis 1848, les lois Schœlcher, voilà, c'était une histoire terminée. Il y avait un siècle et demi qui était passé. Comment pouvait-on se revendiquer fils ou descendant d'esclaves, ou petit-fils ou petite-fille d'esclaves? Eh bien, au bout du compte, la surprise, elle a été là. C'est-à-dire que des gens qui, pourtant, entre-temps, avaient eu la République, entre-temps, avaient eu d'autres raisons de revendiquer d'autres choses dans la société française, bien parce qu'ils étaient mal dans cette société française, sont allés revendiquer cette question « je ne suis pas de mon temps, je suis de mon temps et je suis aussi descendant d'esclaves ». Et à partir de ce moment-là, on voit re-rentrer cette question de l'esclavage de façon très forte dans la société française. Donc, c'est ça l'histoire vécue. Ça veut dire que c'est Aimé Césaire qui parle comme ça. Ça peut être aussi la question de la post-colonisation, des colonisateurs, de la décolonisation et de toutes ces populations qui sont venues sur notre territoire à partir des décolonisations des années 70. Et donc, à partir de ce moment-là, ça surprend, ça nous oblige à nous poser des questions, et cette histoire revit alors qu'on pensait qu'elle était terminée. Et je pense que ce qui est une des leçons de ce rapport qu'on peut avoir à l'histoire quand on travaille dans une émission comme la nôtre, c'est de se dire qu'il n'y a jamais une des leçons de ce rapport à l'histoire, c'est que on peut avoir voulu mettre à la porte le passé, il re-rentre toujours par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on a toujours un moment où ce passé qu'on a voulu cadenasser, renfermer, etc., et là c'est presque psychanalytique, eh bien il vous rejoint là où vous l'attendez le moins, au moment où vous l'attendiez le moins, alors que ce soit un individu, nous-mêmes, ou une société qui se laisse surprendre par cette sorte de résurgence un peu étrange et quelquefois un peu sauvage du passé. On pensait que tout ça s'était calmé, c'était terminé, ce passé était un long fleuve tranquille. Un autre exemple, 1914, 1918, Première Guerre mondiale, tout le monde dit, le dernier des poilus va mourir, cette histoire est terminée, et paf, 1998, Lionel Jospin, un discours à Craonne, et d'un seul coup, toutes les familles des descendants des fusillés de la Première Guerre mondiale qui reviennent demander leurs droits, qui disent il faut remettre dans le droit chemin cette histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ont été fusillés parce qu'ils ne voulaient pas de cette guerre idiote. Et d'un seul coup, cette Première Guerre mondiale qui n'en normalement aurait dû être terminée, rentrée à peu près au niveau des guerres napoléoniennes dans nos livres d'histoire, revient sur le devant de la scène et nous oblige à nous reposer des questions. Bien, tous ces retours du passé sont des retours extrêmement étonnants et extrêmement intéressants qui montrent que l'histoire, c'est jamais une matière morte, c'est une matière qui demande toujours à être revivifiée et qui, à un moment donné, c'est comme un pétard, on allume la mèche et on ne sait pas pourquoi ça explose à tel ou tel endroit et on est toujours surpris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le passé pourrait être quelque chose d'écrit et qu'en fait, ce passé nous surprend toujours et je me laisse surprendre à chaque fois en faisant des émissions d'histoire sur la revivification d'un passé dont on pensait qu'il était totalement mort, comme un cadavre désormais totalement froid. Ça se réchauffe et ça repart.
Emmanuel Laurentin, donc, nous vous remercions.
Les enjeux entre journalisme et histoire, diffusion de la parole et réception du public sont des thèmes qui tiennent à la fois au cœur de 20 minutes d'histoire et du scandale Mag. Nous encourageons vivement nos éditeurs et les lecteurs du scandale Mag à écouter La Fabrique de l'Histoire tous les matins sur France Culture du lundi au vendredi et disponible en podcast sur franceculture.fr.